plateau qui parle. Vincent Magnet vient de quitter le poste qu'il occupait depuis 6 ans au parc naturel de Mille Vaches. Auparavant employé de l'association France Nature Environnement dans la région Centre, il avait quitté ce poste désabusé par le peu de poids que peut avoir un environnementaliste, c'est ainsi qu'il se définit, face à la logique de croissance économique et face à la pollution de l'eau. Dans la Beauce, il n'avait pas pu obtenir de résultats pour la préservation de la nappe de Beauce, gigantesque réservoir d'eau qui va de la région parisienne à Orléans. Il a décidé alors de suivre les cours d'eau vers l'amont et s'est installé sur le plateau de Mille Vaches. Voici 6 ans où, a priori, la pression économique est beaucoup moins forte. L'idée dans cette interview est de faire un état des lieux sur l'eau, sur le territoire. Vincent Magnet a beaucoup à dire. Voici aujourd'hui la première partie de l'interview.
La région Centre et donc la région parisienne cumulent un nombre d'activités et une densité de population importante qui ont une pression très forte sur cette nappe de Beauce, avec des conséquences à la fois du point de vue de la qualité et de la quantité. Et donc le travail que je faisais là-bas, c'est d'essayer de pousser les acteurs et l'État à avoir des mesures plus contraignantes pour permettre que cette nappe de Beauce essaye petit à petit de sortir des signaux rouges, tant du point de vue de la qualité que du point de vue de la quantité. D'ailleurs, le premier enjeu qui avait été identifié dans les années 80-90 pour la nappe de Beauce, c'était la quantité, parce qu'on avait des gros problèmes de sources, de puits, de forages qui s'asséchaient parce qu'on avait trop pompé dans cette nappe.
Ces mesures contraignantes ne sont pas prises là-bas. T'es parti désabusé, on peut dire.
Bon, j'étais jeune et quand on commence à comprendre comment fonctionnent les acteurs locaux, on comprend assez vite que dans ce secteur, les enjeux économiques sont tels, et en particulier les enjeux agricoles, mais aussi industriels, priment sur tout. Et que même si ça paraît évident que tout le monde a besoin d'une eau potable, d'une eau de qualité. Quand on se retrouve à négocier pendant des semaines et des semaines pour obtenir des avancées, on voit que le système n'arrive pas à prendre les bonnes décisions et que les pressions, le lobbying des divers acteurs jouent un effet délétère sur la négociation et sur la prise en compte réelle des problématiques environnementales. Quand on voit en Beauce qu'on a des sources qui sortent à deux fois la norme de potabilité, rien que pour le paramètre nitrate, c'est évident qu'il y a des choses à faire. Quand on a une nappe qui évolue sur un cycle de charge-décharge sur 8 ans et qu'à un moment on est très proche des niveaux d'alerte et que malgré ça on n'arrive pas à obtenir un indicateur fiable validé par tous les acteurs pour mesurer le niveau de la nappe, c'est pas normal. On comprend ça petit à petit quand on travaille dans ce milieu. Et quand on voit que le président de la Chambre d'agriculture arrive un matin et dit « Ah, ce matin j'ai eu le préfet de région au téléphone, donc ceci, cela, ça c'est déjà calé », bon, on comprend que le travail de l'environnementaliste a un impact limité, et que même quand on arrive à se fédérer, parce qu'on essaie de trouver des forces pour pas être tout seul, avec les fédérations de pêche, avec les associations de consommateurs, avec les représentants des grosses collectivités, en région parisienne, il y a des gros syndicats d'eau potable, et qu'eux ont aussi intérêt à ce que la ressource à la fois soit fiable quantitativement, mais aussi s'améliore en qualité pour limiter le coût des traitements. Et ben même avec ces acteurs-là, on n'arrive pas à faire le poids face aux irrigants, face aux conserveries, face au climat économique local qui pèse énormément. Donc, fort de ce constat-là, au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, ici, c'est difficile, le climat est pas bon pour avancer. Essayons d'aller voir plus à l'amont. Si on peut faire quelque chose, les pressions économiques étant moins fortes, peut-être que là, on peut avancer sur le sujet de la prévention des pollutions, puisque c'est vraiment ça l'enjeu, c'est la prévention des pollutions, plutôt que le curatif, parce que le curatif coûte très cher et est toujours très compliqué.
Le curatif, c'est-à-dire la dépollution, c'est ça ?
Voilà, dépollution de l'eau, dépollution des sols, ça coûte très cher, c'est pas du tout dans l'intérêt du citoyen, du consommateur et même de l'élu, mais malheureusement c'est dans l'intérêt à la fois de ceux qui font la pollution et aussi de ceux qui dépolluent. Parfois c'est les mêmes.
Donc remonter en amont vers ce qui se surnomme parfois le château d'eau de la France.
Effectivement, l'idée, c'était de remonter le cours de la Loire. Ça m'a fait arriver vers la Vienne. Alors effectivement, la notion de château d'eau est fréquemment évoquée. À l'échelle du Massif central, ça peut se comprendre. C'est des montagnes qui reçoivent beaucoup d'eau et qui la stockent. À l'échelle de 1000 vaches, c'est quand même nettement moins vrai. Dans le sens où on a un sol souvent sableux issu du granit, qui est la roche prépondérante sur 1000 vaches. Ce granit est quasi imperméable à l'exception des zones de failles et de fractures. C'est pour ça qu'on a un réseau de cours d'eau très très dense sur 1000 vaches, même plus dense qu'ailleurs en Limousin, et aussi lié aux fortes précipitations, parce qu'on est le premier relief que les précipitations croisent en arrivant de l'océan. Du fait de cette quasi-imperméabilité, l'eau reste très peu. Et contrairement à la nappe de Beauce, où on a un système de nappe souterraine très très puissant, énorme, sur plusieurs kilomètres de profondeur et sur une extension très forte en surface, chez nous, ici sur 1000 vaches, on a très peu de nappe. On a un peu d'eau qui est stockée justement dans ces sables, au-dessus du granit. On a un peu plus d'eau qui est stockée dans les failles. Mais globalement, sinon, après, l'eau stockée, c'est l'eau qui est stockée dans les barrages EDF ou l'eau qui est stockée par les zones humides, tourbières, prairies humides, aulnay, enfin tous ces milieux-là qui ont tendance à subir des pressions aussi et des pressions de drainage depuis pas mal de temps. Donc en fait, les fonctions de stockage sur 1000 vaches sont relativement faibles. Et c'est pour ça que château d'eau, on pourrait dire 1000 vaches, c'est une belle fonction parapluie. Mais château d'eau, c'est beaucoup moins vrai, quoi. Ici, on a de faibles fonctions de stockage, et donc du coup, l'eau a tendance à quitter très vite notre territoire. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, qu'historiquement, les anciens avaient fait tous ces systèmes de levades, de pêcheries, de rigoles, pour essayer de gérer l'eau au mieux et de la garder le plus longtemps possible chez nous, en plus des effets positifs sur la maîtrise des limons qui sont véhiculés par l'eau et des argiles. Ils avaient une manière de fertiliser comme ça et d'augmenter la température dans les prairies en début de saison pour chasser l'eau froide d'hiver. Ça, c'est tout un système. Mais en tout cas, par ces levades, tout ça, ils avaient augmenté les fonctions de stockage. Et celles-là, elles sont plus ou moins perdues, abandonnées. Il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs qui entretiennent ce système-là. Et on a plutôt accéléré le transit de l'eau avec les drainages. C'est pour ça que dire château d'eau, pour ici, c'est assez abusif, en fait.
Tu as travaillé au parc naturel, et donc venons-en à la question peut-être qui fâche. Tu étais parti de la région centre où un environnementaliste ne pouvait rien faire de sérieux, de concret, face aux pollutions. Ici, qu'est-ce que tu vois ?
Alors ici, c'est vrai que les problématiques sont tout autres. Déjà, du fait de ce que je viens d'expliquer sur les caractéristiques de la ressource, mais aussi du point de vue évidemment du tissu économique. Par rapport à l'eau, on a deux axes majeurs que sont l'agriculture sous forme d'élevage essentiellement et la forêt de plantation et la forêt naturelle revenue après abandon des terres agricoles. Même si il n'y a pas que ça. Évidemment, le domestique, c'est-à-dire les bourgs, les villages et l'activité humaine a un impact. Et c'est vrai que si on regarde les problématiques d'assainissement, on est aussi très loin d'avoir quelque chose de satisfaisant. On peut parler aussi de l'impact du tourisme en termes de prélèvement ou de l'impact, par exemple, des travaux des conseils généraux sur les routes avec le déneigement, l'utilisation d'herbicides, tout ça. Bon, tout ça joue et tout ça se cumule. Mais les deux sujets majeurs pour la ressource ici sont l'agriculture et la forêt. Alors, on avait des pressions fortes en Beauce. Ici, elles sont un peu moins fortes, c'est vrai. Mais c'est pas quand même si évident que ça, parce que la forêt, ça fait vivre aussi un certain nombre de personnes. On a un système qui aujourd'hui est devenu très très intensif, quand on parle de la forêt de plantation en tout cas, avec un mode à la fois de conduite des forêts et un mode d'exploitation qui est très rapide et très massif avec des engins très lourds. Et ça a des impacts importants sur l'eau. Et pour l'agriculture, c'est un peu pareil. On a eu une évolution du modèle agricole avec des engins de plus en plus lourds, avec une mécanisation de plus en plus forte, avec une évolution d'un élevage ovin vers un élevage bovin. Il suffit de se balader pour voir entre une parcelle où il y a des ovins et une parcelle où il y a des bovins que les impacts ne sont pas du tout les mêmes. Et en plus, le nombre de bovins a plutôt augmenté par parcelle, par exploitation. Et donc, quand on avait une dizaine, une quinzaine de bovins il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on en a plutôt 30, voire 40 par parcelle. Et comme on a des systèmes ici où les milieux aquatiques, les ruisseaux, les cours d'eau traversent très fréquemment les parcelles, on a des impacts qui peuvent être non négligeables sur la ressource en eau, quoi. Là, je parle du point de vue déjà qualitatif, quoi. Et on pourrait évoquer aussi l'effet des traitements antiparasitaires qui sont de plus en plus efficaces par rapport à la survie et à l'absence de problèmes sanitaires pour les bovins ou les ovins, mais par contre qui sont des molécules tellement efficaces qu'elles sont efficaces aussi pour éliminer, voire éradiquer certaines faunes non cibles comme les petites bestioles des cours d'eau que mangent les truites ou par exemple les larves de mouches dans les bouses de vaches par exemple. Ça, on s'aperçoit que plus ça va, bon, plus les bouses mettent du temps à se dégrader, moins on observe d'insectes dans les cours d'eau. Enfin, il y a une évolution qui n'est pas que propre à 1000 vaches, qui est malheureusement un petit peu globale, mais qui se constate aussi sur 1000 vaches. Voilà.
C'était Vincent Magnet, environnementaliste, spécialiste des questions d'eau, qui a travaillé pendant 6 ans au parc naturel de 1000 vaches. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur radiovassivière.com. La deuxième partie de cette interview sera diffusée demain, aux horaires habituels du plateau qui parle, c'est-à-dire 8h30, 12h10 et 17h30.